Ariane sur l'archipel interdit. Une création sonore de Radio Utopia, librement inspirée du roman Island d'Aldous Huxley et réalisée avec les habitants et les habitantes du territoire Vézère-Monédière-Mille-Sources avec le soutien des ateliers Médicis. Épisode 7. Le psilocybe de l'utopie. Vous écoutez Radio Utopia. Radio Utopia, la radio dans vos rêves. Radio Utopia, la radio dans vos rêves.
During our six-week course, you'll learn to grow your beard and have long hair so that you can become a genuine hippie crit. That's right, you'll become an ace in criticizing the system while claiming benefit. Cool, 0800 guru now. That's 0800 guru now. Gurutopia. That's right.
Ah, c'est Robin de la boule piquante qui rentre dans le studio, il s'installe, il va nous parler de sport, alors on se retrouve tout à l'heure.
Tout à fait, bonjour Conrad, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Utopia. Retrouvez-moi effectivement tout à l'heure dans Palasport, tous au sommet, pour un résumé complet de la 14e journée de la Ligue Alpine Paladienne.
Ah, ça va être passionnant.
Ah, tout à fait, alors je vais vous présenter tous les résultats des épreuves de Grimpin Pro en salle, puis nous nous rendrons sur l'île Grande pour assister au fameux chassé-croisé entre Ernest Audu et Chloé du Pont de la Boulette, dans le parcours urbain et la terrible ascension des trois tours.
Ah, c'est le combat entre les deux là.
C'est
Ernest
ça,
et Chloé, là, depuis un moment, on sent que...
Ah ça se... Ouais, c'est quelque chose là. Hein.
Ça donne.
Tout à fait. Et ensuite, nous suivrons en direct la fin de l'ascension du plateau des Mille Vaches par Adèle Crampon. On va voir si elle va enfin réussir à atteindre son troisième degré initiatique.
Ouais, Adèle, elle le mérite.
Hein. Oh, on lui souhaite. En tout cas, on lui souhaite. Voilà, amoureux des sommets et de la grimpette, je vous retrouve tout à l'heure dans Palasport, tous au sommet, en exclusivité sur Radio Utopia.
Super Robin, bon bah écoute, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et quant à moi, bah, on se retrouve demain avec mes chers auditeurs et chères auditrices. À demain sur Radio Utopia.
À demain.
Je repris mes esprits. L'ingénieur Mona Chaya avait disparu. Je me trouvais à présent dans le bâtiment principal de la station expérimentale de haute altitude, en compagnie du docteur Robert MacPhail, petit-fils du docteur Andrew, père de Susila, et grand-père de Marie Sarojini et Tom Krishna. Il devait avoir plus de 50 ans. Sous le large chapeau de paille, la chevelure était épaisse et blanche. Et quel bizarre nez crochu! Mais j'étais davantage intrigué par de petits champignons jaunes cultivés sur des planches spéciales de mycètes.
Moksha. Moksha. Moksha, 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 Moksha.
Serait-ce le remède Moksha, votre drogue locale, si j'ai bien compris?
Que trouve-t-on dans un mot? Vous dites drogue par réflexe conditionné et vous en éprouvez tout le dégoût que le mot horrible évoque. Nous, au contraire, nous donnons à cette substance de beaux noms. Révélateur de la réalité, pilule de bonheur et de vérité. 400 mg de Moksha nous permettent d'entrepercevoir le monde tel qu'il apparaît à ceux qui se sont libérés de leur servitude à l'égard du moi.
Mais ce n'est pas réel.
Pas réel. Vous pourriez aussi bien dire que l'expérience du bien-être n'est pas réelle.
Savez-vous ce qui se passe dans votre crâne lorsque vous avez absorbé une dose de champignons?
Savoir est un grand mot. Nous commençons seulement à comprendre la corrélation neurologique de ces expériences. Le remède Moksha produit quelques stimulations inhabituelles des zones de première projection de l'esprit, le cortex visuel par exemple. Il agit aussi sur les zones silencieuses de l'esprit, les zones qui ne sont pas spécifiquement intéressées par la perception, le mouvement ou la sensation.
Et comment les zones silencieuses répondent-elles?
Commençons d'abord par les cas où elles ne répondent pas. Elles ne répondent pas aux visions et auditions, à la télépathie ou à tout autre genre de ces amusantes pratiques pré-mystiques. Leur réponse est dans l'expérience mystique totale.
Ah oui, je vois le genre. Un en tous et tous en un.
Joies et compassion infinies.
Mais tout ce touhibouhu se fait dans votre crâne. Ce n'est pas réel. C'est strictement personnel. Aucun rapport avec des faits extérieurs, sauf avec votre champignon vénéneux.
Le remède Moksha agit sur les zones silencieuses de l'esprit, perçant un canal neurologique permettant ainsi à un plus grand volume d'esprit, avec un grand E, de s'écouler dans votre esprit avec un petit E. Comme la musique, ces effets peuvent être thérapeutiques et transformateurs. L'expérience peut ouvrir les yeux, vous rendre heureux et transformer votre vie entière.
Et vous soignez tous les palanais avec ce remède Moksha?
15% de la population n'est pas disposée à réagir d'une manière significative au remède Moksha. Leur GEE ne présente aucune activité onde alpha au repos. Pour eux, nous devons trouver d'autres moyens de libération.
Et vous, docteur, vous vous soignez au remède Moksha?
Depuis 37 ans, ma femme et moi avons pris le Moksha une à deux fois par an. Il nous a permis respectivement une transformation mentale, d'avancer sur le chemin de la connaissance.
Serait-il permis à une étrangère méséduquée d'essayer une pilule de vérité et de beauté?
Votre foi est-il en bon état?
Excellent.
Et vous ne semblez qu'à moitié schizophrène. Dans l'immédiat, je ne vois pas de contre-indication. Nous en reparlerons le moment venu quand vous serez prête.
Nous quittâmes le bâtiment central de la station et pénétrâmes dans la pénombre verte d'un étroit tunnel qui zigzaguait entre deux parois de frondaisons tropicales. Des entrelacs de lianes se mêlaient à des fougères exubérantes. Des centaines de papillons bleus et améthystes s'agitaient et planaient en une folle danse sans fin. Un petit faon apprivoisé broutait tranquillement. Après l'enclos du taureau blanc, après le bassin au lotus et l'énorme bouddha de pierre, après les forêts et les scieries, après les fonderies de cuivre, nous arrivâmes à Madalya, un petit village avec des jardins ombragés où les palanais produisent du riz, des légumes, de la volaille et des fruits. L'agriculture palanaise est une affaire de terrassement et d'irrigation exigeant, m'expliqua le docteur Robert, des efforts communs et des accords de bonne intelligence passant par une coopération planifiée.
Rejoins-moi là où s'arrêtera le désespoir. Nous serons bien, nous serons forts et sans jamais faiblir. Donne-moi ta main, rions encore pour ne jamais mourir.
Nous étions à présent sur une crête qui dominait deux descentes à pic, au fond desquelles on apercevait à gauche un lac frangé d'arbres. Nous débouchâmes sur une large corniche cernée de trois côtés par un mur de roches rouges qui s'élevait à plus de 2000 mètres, en une succession de crêtes dentelées et de pics isolés. Il y avait là de jeunes gens chaussés de souliers à crampons et en tenue d'alpiniste, qui se frayait un passage le long d'une cheminée surplombant le précipice. J'appris que l'alpinisme faisait partie intégrante du programme scolaire des enfants. Le docteur Robert m'expliqua qu'il s'agissait là du premier degré de leur initiation, lors du passage de l'enfance à l'adolescence. Une telle épreuve permettait de comprendre le monde dans lequel ils allaient devoir vivre et de réaliser l'omniprésence de la mort, la précarité essentielle de toute existence.
À Pala, tout le monde pratique le travail manuel.
Mais vous, vous êtes un intellectuel, docteur.
J'ai des muscles, je fais un travail musculaire. Les intellectuels occidentaux sont des pantouflards. C'est pourquoi la plupart d'entre eux sont si affreusement malsains. Ils passent leur temps sur du caoutchouc mousse. Des sièges ramollis pour des derrières ramollis, à la maison, au bureau, dans les voitures et les bars, dans les avions et les trains et les autobus. Pas de mouvement de jambes, pas de lutte contre la distance, contre la gravité. Rien que des ascenseurs, des avions et des voitures, rien que de la mousse de caoutchouc et une éternité dans la position assise. La puissance de vie, qui trouvait un débouché grâce au jeu des muscles, se rabat sur les viscères, sur le système nerveux et les détruit lentement.
Vous employez donc le bêchage et le sarclage comme une forme de thérapeutique ?
Plutôt comme une façon de rendre inutile la thérapeutique. À Pala, tout le monde passe généralement 2 heures par jour à bêcher et à sarcler.
C'est une partie des devoirs à sa charge.
Une partie de son plaisir.
Bon, ça ferait pas partie de mon plaisir.
C'est parce que l'on ne vous a pas appris à vous servir de votre corps-esprit de la bonne manière. Si on vous avait montré comment on peut accomplir les choses avec le minimum d'efforts et le maximum de conscience, vous auriez aimé jusqu'aux lourdes tâches physiques.
Les enfants reçoivent ce genre d'entraînement, j'imagine ?
Depuis le premier instant où ils commencent à faire quelque chose tout seuls. Travailler permet au corps et à la tête d'avoir la meilleure position physiologique.
Retour à la bonne vieille main-d'œuvre juvénile.
Goûter à tous les genres de besognes, cela fait partie de l'éducation de chacun. L'on apprend beaucoup de cette façon, sur les choses, sur les arts, sur les organisations, sur toutes sortes d'individus et leur manière de penser.
Je préférerais apprendre ça dans les livres.
Vous adorez la parole, mais abhorrez la matière. Vous, les Occidentaux, vous prônez un matérialisme abstrait, alors que nous, nous sommes des matérialistes concrets. Matérialistes jusqu'aux zones les plus secrètes de la vue, du toucher et de l'odorat, des muscles tendus et des mains sales. C'est la substance d'une vie humaine accomplie. C'est grâce à une conscience totale et constante que nous transformons cette substance en spiritualité concrète. Soyez pleinement conscient de ce que vous faites et le travail deviendra le yoga du travail. La distraction deviendra le yoga de la distraction. Et la vie de tous les jours deviendra le yoga de la vie de tous les jours.
Et maintenant, une information commerciale. On se retrouve tout de suite après avec Conrad.
Celui qui ne se lave jamais les idées.
J'ai déjà entendu ça quelque part. Qu'est-ce que c'est ?
C'est Radio Utopia, notre radio nationale qui émet dans tout l'archipel depuis la station expérimentale de haute altitude. Mais venez, on vous attend au studio.
Quoi ? Moi ? Le docteur Robert me fit visiter les studios de Radio Utopia. Une émission était en cours d'enregistrement.
Bonjour, merci d'être fidèle à Radio Utopia, la radio dans vos rêves.
Je reconnus alors les voix qui peuplaient mon cerveau. Le peuple palanais m'avait-il envoyé un message subliminal ? Étais-je donc une appelée ? Avais-je une mission à accomplir ?
Les palanaises et les palanais nous rejoignent maintenant dans le studio de la station expérimentale de la haute altitude. Et après le bulletin de l'idéal météo des astres, nous allons recevoir sur notre plateau Ariane qui nous vient de la vie grise. Alors surtout, restez à l'écoute.
Radio Utopia vous présente l'idéal météo des astres.
La météotopia de cette semaine sera marquée par la grande conjonction des planètes Jupitopia et Uranutopia qui ne se produit que tous les 800 ans. Nous aurons la chance de voir un rapprochement exceptionnel entre ces deux planètes le soir du 21 utosambre aux alentours de 19h22. Un solstice d'hiver un peu particulier qui, d'après nos astrologues, marquera bel et bien notre entrée dans l'ère du Verseau. La pression continuera de monter jusqu'à produire des cyclones de force 15. Mais pas de panique, ces perturbations coïncideront avec une vague de révolutions positives qui finiront par mettre un terme au Covid-51 sur la planète Terre, dont les mauvaises vibrations perturbaient notre champ magnétique. Bonne nouvelle, la grande conjonction réduira donc ces mauvaises émissions cosmiques et le Soleil reviendra briller sur nos ondes. C'était la météo des astres par Radio Utopia.
Merci Nostradama de toutes ces prédictions passionnantes. Et demain, vous allez nous parler de quoi ?
Demain, j'aurai le plaisir de vous parler des grandes marétopia de l'île Pala.
À demain donc.
Solve seclum in favilla, quentus tremores futurus, quendo iuvex est venturus. Mor stupedite natura, cum resurget creatura, judicanti responsura, judicanti responsura, judex ego concedebit, quid latet apparebit. Nim immictum remanebit. Rex tremente majestatis, salva me cum pietatis, salva me cum pietatis, salva me cum pietatis, salva me cum pietatis, salva me cum pietatis. Salva me, fons pietatis. Salva me, fons pietatis. Salva me, fons pietatis. Fons pietatis. Salva me, fons pietatis. Salva me, fons pietatis. Salva me, fons pietatis. Fons pietatis, salvame, fons pietatis, salvame, fons pietatis, salvame, fons pietatis. Fons pietatis, salvame, fons pietatis, salvame, fons pietatis, salvame, fons pietatis. Fons pietatis, fons pietatis.
Bienvenue à Radio Utopia.
La radio dans vos rêves. Épisode 7. Le psilocybe de l'utopie. Avec la voix d'Ariane von Behrendt, de Thierry Mazot dans le rôle du docteur Robert et de Philippe Daudeville dans le rôle de Conrad Baxter, avec la participation d'Andy Williams, avec une improvisation de Fantasio à la guitare et les voix d'Ariane, Cécile et Florence, et avec un extrait de « Après le monde, jour de colère » d'Éléonore Bérubé et Fleur Dujat, artiste en résidence à l'hôtel Experimenta. Réalisation, Élodie Chamoret, compagnie Les Funambules. Prise de son, Philippe Daudeville, Sam Bazu et Élodie Chamoret. Montage, Thierry Ginesté et Élodie Chamoret. Production, RGB, Radio KOB, la médiathèque intercommunale Vézère, Monédière, Mille Sources et les ateliers Médicis.
La suite au prochain épisode.